Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux, au nom du Point, partenaire de la foire de Brive depuis 2003, quand même, de vous présenter cette rencontre avec un invité exceptionnel, Sa Majesté de Brive. Vous avez vu, hein, voilà. Je demandais justement à Jonathan quand avait été le couronnement. Il faudra qu'on organise ça, peut-être. Voilà. Donc un invité exceptionnel, l'un des tout meilleurs écrivains de notre temps, venu de très très loin, d'au-delà des mers, d'un pays étrange et fascinant, lointain mais néanmoins proche, qu'on appelle le Royaume-Uni, alias l'Angleterre. Un pays qu'il a su, à travers des livres aussi magnifiques que mordants, comme Testament à l'anglaise, Bienvenue au club ou Le cœur de l'Angleterre, nous raconter comme personne, avec autant de précision que d'humour anglais, évidemment. Cet homme, c'est lui, c'est Jonathan Coe, et je vous demande de l'applaudir chaleureusement.
Merci, merci beaucoup, et bonjour à tous.
Bonjour, Jonathan Coe.
Bonjour, Christophe.
How are you?
I'm good, but I didn't realize I was being crowned in Brive. Yes. You know, this is which is very embarrassing for me because I'm a Republican.
Je ne savais pas que j'allais assister à mon propre couronnement, d'autant que je suis républicain, donc j'étais relativement surpris.
Mais vous savez que la France est une monarchie déguisée.
Nice monarchy. Who's the king? Macron?
Yes, of course.
Oh, okay.
Et le roi serait Macron? Voilà.
Mais les Français aiment élire des rois pour pouvoir très vite les guillotiner après.
Yeah, we could learn something from you, I think.
Exactement.
Peut-être qu'il y a une leçon à tirer de ce que vous dites là.
Voilà, et je voudrais que vous saluiez aussi Marie Furtner qui va interpréter Jonathan Coe aujourd'hui. Il faut l'applaudir parce que c'est grâce à elle que nous allons comprendre cet anglais.
Yes.
Est-ce que vous êtes heureux de venir en Corrèze? Il paraît que les Britanniques adorent la région. Il y en a beaucoup.
Yeah, very happy, but it's a very brief visit. I arrived last night and I leave tomorrow morning, so I get two meals, two opportunities to sample the incredible cuisine of this region, and then I'm gone back to English food, which is a terrible fate.
Alors, je suis absolument ravie, mais malheureusement, mon séjour ici va être très bref puisque je suis arrivée hier soir très tard et je repars demain très tôt. J'ai donc l'occasion d'avoir deux repas ici pour goûter à la cuisine absolument exceptionnelle de cette région. Et ensuite, eh bien, ma foi, je vais retourner à la cuisine anglaise, ce qui est assez malheureux.
C'est la saison des cèpes, vous savez. Je ne sais pas comment on dit cèpes en
truffles.
Yeah, en anglais. Yeah. Cèpes.
Seps, yes.
Seps.
Same, it's the same, okay. Yeah.
Vous le saurez. Bon, merci en tout cas, hein, Jonathan, de nous faire le cadeau de venir à Brive pour nous présenter votre nouveau roman qui est ici, Le Royaume des Unis. Alors, vous avez beaucoup de chance parce qu'il ne sort en France que le 10 novembre, mais il sort à Brive aujourd'hui, hein, le 5 novembre, et vous serez d'ailleurs sur le stand de Gallimard pour le signer. Le 5 novembre, Brive est toujours en avance. Alors, qu'est-ce que c'est que le Royaume des Unis, dont le titre anglais est Bourneville? Eh bien, c'est une grande fresque qui nous raconte 70 ans de l'histoire de l'Angleterre, de 1945 à nos jours. C'est une fresque que Jonathan a scandée en différents temps majeurs de l'histoire de l'Angleterre. La victoire de 1945, le couronnement d'Elisabeth, la victoire au mondial contre l'Allemagne en 1966, la mort de Lady Di, le Brexit aussi, évidemment, le confinement, puisque ça va jusqu'à aujourd'hui. Mais tout cela, vu à travers les yeux d'une famille de la classe moyenne anglaise, dans une petite bourgade du côté de Birmingham, donc Bourneville, hein, qui est le nom, donc le titre anglais, qui est connu pour sa chocolaterie Cadbury, la fameuse marque de chocolat, la plus grande chocolaterie du pays, qui va jouer un rôle très important dans le roman. Alors ce livre, c'est vraiment une grande et puissante fresque, je le disais, puissante, très sensible aussi, minutieuse, épique, constamment travaillée, c'est ce qui rend la lecture très agréable, à hauteur d'être humain, même si elle embrasse absolument toute la vie politique, industrielle, culturelle et même mythologique de l'Angleterre, puisqu'on va rencontrer la Mini Austin, Winston Churchill, la reine d'Angleterre, les cabines téléphoniques rouges et le fameux chocolat Cadbury. Pourquoi, Jonathan Coe, ça sera ma première question, avoir accordé autant d'importance au chocolat anglais alors que c'est pas le meilleur du monde et qu'il y a surtout déjà un roman qui est très bon qui s'appelle Charlie et la chocolaterie?
Just out of curiosity, are you saying that French chocolate is the best in the world?
Juste une question, est-ce que vous suggérez là que c'est le chocolat
non,
français,
dire,
le meilleur chocolat du monde?
Il y a le Suisse, il y a quand même des choses, voilà.
Pour moi, le Suisse.
Voilà.
Oui. Okay, well, the answer to your question, I suppose, is in the book itself, and it's at the very beginning of the book, because the book is structured around seven great national occasions, which Christoph mentioned, the coronation of Queen Elizabeth, the World Cup final in 1966, still a very important symbolic moment in the English consciousness. But there is also a prologue at the beginning of the book, which is set in March 2020.
Donc pour reprendre ce qui a été dit, le livre a été structuré autour de sept occasions majeures en Angleterre. Donc on a parlé évidemment du couronnement de la reine, de la finale de la Coupe du Monde en 1966, qui reste aujourd'hui encore un symbole extrêmement important dans les consciences anglaises. Et le roman commence par un prologue qui se situe en mars 2020.
And this prologue is based on a little tour of Austria and Germany that I was making with my books in March 2020. And it was at the very moment when we were first starting to hear the word COVID. Italy, which was the first European country, I think, to lock down, had just locked down. And there was a great feeling of anxiety and unease in the air. I was talking first of all in Vienna, then in Munich, then in Hamburg, then in Berlin, and every time I went to one of these literature houses, the next morning it was closed down and all future events were cancelled. In each one of these places I was the last person to appear, and I had this sense that the virus was chasing me around Europe.
Et le début, donc ce prologue, est basé sur ce que j'ai vécu moi-même au tout début du Covid, alors que j'étais en tournée en Autriche puis en Allemagne. Donc on commençait tout juste à entendre parler du Covid. L'Italie était le premier pays européen à rentrer en confinement. Et régnait une anxiété et une tension vraiment palpables. Alors j'ai été d'abord à Vienne, puis à Munich, Hambourg et enfin Berlin. Et à chaque fois que j'allais à un événement dans une de ces villes, eh bien le lendemain matin, tout était annulé et j'étais le dernier à pouvoir avoir mon événement. Et j'avais donc véritablement l'impression que le virus me pourchassait.
And after each of these events, my hosts would take me to dinner. And we would talk about COVID and the pandemic, of course, but there was also always a moment at which these Austrian and German hosts would start asking me about my country. And they did it in the manner of a kind of concerned friend who was worried about the midlife crisis of their best friend or something like this and wanted to stage an intervention. But what they were talking about was the English, les Anglais. They say, What's happened to you? What are you doing? Why are you making these strange decisions? They were talking about Brexit and they were talking about the election of Boris Johnson as Prime Minister. And, you know, I had the sense that here was a country which previously they had loved and admired for its common sense and its stability, and they felt that, you know, something had gone very wrong.
Et alors... Après chacun de ces événements, mes hôtes m'invitaient à dîner et donc on commençait à discuter. Évidemment, la conversation commençait toujours par le Covid, la pandémie, etc. Mais il y avait toujours un moment où mes hôtes, autrichiens ou allemands, me posaient des questions sur mon pays, comme un ami inquiet le ferait face à quelqu'un qui serait en train de vivre la crise de la quarantaine, quoi. Et donc, ils me posaient des questions du type, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces décisions étranges? Et évidemment, ils faisaient référence au Brexit ou à Boris Johnson, qui venait de devenir Premier ministre. Et donc, j'avais véritablement l'impression qu'ils voyaient mon pays comme un pays qui avait été aimé et admiré pour sa stabilité et son bon sens et qui avait vrillé.
And I'd already written a novel which told the story of the Brexit referendum, Le Coeur de l'Angleterre. The narrative of that novel started in the year 2010, sorry. And I felt that this time maybe I should go a little bit further back to try to explore the roots of what, in my opinion, lies behind the decision to Brexit, which is this strong sense of English exceptionalism, which is our great Achilles' heel, if you like, as a nation.
J'avais déjà écrit un roman qui portait sur le Brexit, Le Cœur de l'Angleterre, et ce roman-là était situé, enfin, commençait en 2010. Cette fois-ci, je voulais remonter plus loin pour essayer de découvrir et d'explorer les racines et les raisons pour lesquelles ce Brexit avait eu lieu, les racines étant, à mon avis, l'exception anglaise, cette notion qui est enracinée chez les gens et qui, à mon avis, est le talon d'Achille de mon pays.
D'où le chocolat, en fait, parce que ma question portait sur le chocolat.
Oh, about chocolate, yeah. Well, I decided to tell this story from the end of the Second World War to the present day through the life of my mother, who died a few months after the events I'm talking about in June 2020. She was born in Bourneville, in the shadow of the Cadbury's chocolate factory. Her father worked there, my grandfather worked there, many of my family members worked there. So, you know, I chose the location first, the village, and then, of course, you can't write about Bourneville without writing about chocolate.
Non, parce que le parler du chocolat, c'est... Ah, pardon, oui.
Et donc, j'ai effectivement raconté cette histoire qui commence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui va jusqu'à aujourd'hui, basée sur ma mère qui est décédée en juin 2020. Et donc, je raconte cette histoire du point de vue de cette ville de Bourneville, dans laquelle on voit cette fabrique de chocolat, dans laquelle, d'ailleurs, beaucoup de membres de ma famille ont travaillé. Donc, j'ai d'abord choisi le lieu, Bourneville, et évidemment, on ne peut pas parler de ce lieu sans parler de l'usine de Cadbury's.
Also, you know, chocolate is a thing that the British and the rest of Europe argued about for a long time, yes. For 30 years.
And in Brussels also.
In Brussels, yes.
Et il faut savoir évidemment que le chocolat a été l'objet d'une dispute absolument extraordinaire chez les Britanniques et puis dans l'Europe tout entière.
Because you wouldn't admit that our chocolate was chocolate. Mm.
Parce que les Européens ne voulaient pas admettre que notre chocolat était du chocolat.
You wanted to call it Vegelet.
Yeah.
Vegelet.
Il voulait l'appeler Vegelet.
Ouais. Marketingement, c'est pas terrible. Hein. Non, mais il y a eu un projet de film, hein, c'est ça. Vous avez travaillé d'ailleurs avec une scénariste française, hein, Julie Gavras, sur un scénario qui s'intitulait La guerre du chocolat. Hein, c'est ça. Et ça a été abandonné finalement. Et comme vous aviez travaillé, vous êtes dit, je vais m'en servir pour le roman.
Yeah, more or less. I mean, Julie and I worked on this screenplay on and off for about 7 or 8 years, and then she couldn't raise the money for the film in the end. For some reason, for some strange reason, people didn't believe in the idea of a romantic comedy set in Brussels against the backdrop of the European Union. Somehow they didn't see it as a romantic context.
Effectivement, on a travaillé sur un scénario pendant près de 7 ou 8 ans et on n'a pas réussi à lever suffisamment de fonds parce que, bizarrement, les gens ne croyaient pas en l'idée d'avoir une comédie romantique située à Bruxelles dans le cadre de l'Union européenne. Allez savoir pourquoi.
Ce qui est très touchant dans ce livre, Jonathan Coe, je parlais tout à l'heure d'histoire politique, d'histoire industrielle, mais de mythologie britannique, c'est que c'est une grande fresque, hein, ce Royaume des Unis, où on a tout ce qu'on aime hein, aussi de l'Angleterre, qui nous la rend parfois exotique. Effectivement, le chocolat, les cabines de téléphone, le fait, la notion d'avoir la conscience de vivre sur une île, les Austin, James Bond. On voit tout ce qui compte aussi pour un peuple britannique, même s'il est aujourd'hui déchiré. Vous parliez justement de votre mère, hein, qui vous avait aussi inspiré hein, en quelque sorte le livre. Je vais juste vous demander si on n'écrit pas aussi pour arrêter le temps. J'ai eu l'impression en lisant le livre, la belle impression que j'ai aussi chez un autre auteur que j'aime bien, que j'aime beaucoup, hein, qui s'appelle Orhan Pamuk, l'idée de me promener aussi parfois, et c'est pas du tout péjoratif, mais dans un musée avec les objets de notre vie qui nous ont semblé familiers. On remonte dans le temps, c'est très vivant, comme si les objets avaient une aura, mais on a l'impression qu'il y a aussi la volonté chez vous de, avec ce livre-là, de concentrer, de faire une sorte de livre, recueil, musée aussi de ce qu'a été l'Angleterre, de ce qu'a été ce pays que vous aimez tout en le critiquant. Est-ce qu'on écrit pour arrêter le temps aussi ? Je voudrais juste compléter ma question par une citation que vous m'avez donnée quand on s'est vu à Paris il y a quelques semaines. Il y a quelque chose que je trouve intolérable, l'idée que ces moments qui ont disparu ne puissent plus jamais être vécus à nouveau. Est-ce que la littérature, c'est pas justement l'instrument idéal pour faire revivre ces moments?
Yes, you're absolutely right. It's a novel of contradictions and ambivalences. It's my personal tribute to my mother. And yes, it's also a kind of panorama of British life in the last 75 years. So it's both my most personal novel and one of my most political novels.
Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, alors certes, c'est un roman qui est un roman de contradiction, un roman ambivalent. C'est effectivement un hommage à ma mère. C'est aussi un panorama des 70 dernières années de l'Angleterre. C'est un de mes romans les plus personnels et un des plus politiques aussi.
And also the inspiration for the book, in a way, came very much from my editor in London, who was pressuring me to write a novel about the present. She said, I think you should write a novel about what is happening now in the UK. So I do think of it as a book about the present, but it's a book which approaches the present entirely through the filter of the past.
Et l'inspiration me vient en partie parce que mon éditeur anglais voulait absolument que j'écrive un roman sur ce qui était en train de se passer, ce qui se passait au Royaume-Uni. Donc, il s'agit d'un roman qui parle du présent, mais à travers le filtre du passé.
But in a way, this is the British problem at the moment. We have nothing but our history, and we're kind of obsessed by our history, and we're weighed down by our history, and you know, in many ways, I think that the death of Queen Elizabeth, sad though it is, obviously could be a kind of liberation because, you know, we've had the same woman on the throne for more than 70 years and it's frozen us in aspic in some ways. And now maybe we have a chance to address our ongoing identity crisis and move forward, which is what we need to do as a country.
Et je pense que c'est précisément là le problème auquel fait face le Royaume-Uni. C'est-à-dire que, oui, on a une histoire, mais on a un peu l'impression qu'il ne nous reste plus que ça. On est obsédé par notre histoire, on est freiné par notre histoire. Et il me semble qu'avec le décès de la reine, qui est évidemment un événement très triste, pourrait aussi être l'occasion d'une libération, puisqu'après tout, elle a été notre reine pendant plus de 70 ans, ce qui nous a un peu arrêtés dans le temps. Et maintenant qu'elle n'est plus là, ça pourrait être l'occasion de vraiment se mettre à gérer cette crise de l'identité et peut-être d'avancer.
So just to finish answering your question, it's a book about the death of my mother and a book about the death of a certain idea of Englishness, and both of these things are tragic and traumatic, but inevitable. And somehow I have to get past both of them, and the country has to get past it.
Et donc, pour finir de répondre à la question, mon roman est un roman sur le décès de ma mère, sur la fin d'une certaine notion de ce que c'est que d'être anglais. Et ces deux choses sont à la fois tragiques et traumatiques, mais inévitables. Et donc, il faut que je fasse face à cela et que je dépasse ces difficultés. Et le pays doit faire de même.
Comment vous définiriez ce que c'est que d'être anglais, Jonathan Coe ? C'est toujours un peu exotique pour les Français, ce mélange effectivement de stabilité, de monarchie, d'excentricité aussi, d'humour, d'émotions contenues et qui parfois se lâchent totalement. Qu'est-ce que c'est que qu'être anglais ? Expliquez-nous, à Brive, on va enfin savoir.
No, you won't.
Non, je ne crois pas.
Well, I've written 14 novels now exploring this idea, and I still maybe I'm a tiny bit closer to an answer, but not. I still haven't found the answer. So you know, it's my life's work, I think, to try and explain this phenomenon, and I can't reduce it to a phrase.
Alors, j'ai écrit 14 romans qui explorent la question. Alors, je suis peut-être un tout petit peu plus proche du début d'une réponse, mais je ne peux en aucun cas vous donner de réponse précise. Hein. C'est l'œuvre de toute une vie et je ne peux certainement pas réduire ça en une phrase.
But what I have realized in recent years is that the English have no idea how exotic we seem to the rest of Europe, or how eccentric we seem to the rest of Europe. We, you know, it's ordinary life for us. It's the air that we breathe. And I think, you know, Brexit and everything that's come after it has made us, some of us, step outside ourselves and look in. And yeah, we're a strange country, no doubt about it.
Et la chose dont je commence à prendre conscience, c'est que les Anglais n'ont pas la moindre idée de la façon dont ils sont perçus par les Européens, à quel point ils sont vus comme exotiques, excentriques. Parfois, pour nous, c'est la vie du quotidien, c'est l'air que nous respirons. Et avec le Brexit, certains ont pris un petit peu de recul et ont regardé depuis l'extérieur ce qui pouvait être perçu de l'Angleterre. Et oui, effectivement, nous sommes un pays un peu étrange.
A Dutch journalist said to me recently, you know, we used to think Monty Python was a comedy show. Now we realize it's reality. So.
Un journaliste hollandais me disait récemment, on croyait que les Monty Python c'était de la comédie, et en fait non, c'est la réalité.
Vous avez dit dans le Guardian, je crois que c'était une interview cette semaine, que vous compreniez maintenant et que votre pays était un pays gouverné par l'émotion plus que la raison. Est-ce que c'est le Brexit qui vous a fait prendre conscience de ça, ou la mort de Lady Di?
La mort de Lady Di.
I think Diana's death back in 1997 was when we first began to realize it, because the display of public mourning that week, which I write about at length in this new book, was extraordinary, as was the pressure that the public applied to the royal family to manifest some emotion themselves. This is the subject of Stephen Frears' great film, The Queen.
Je pense qu'on a commencé à en prendre conscience en 97 à la mort de Diana, lorsqu'on a vu ce deuil qui a duré sur plusieurs semaines et qui était absolument extraordinaire, et ce peuple qui a commencé à mettre la pression sur la famille royale pour que la famille royale montre des émotions. Et c'est d'ailleurs l'objet de The Queen, le film de Stephen Frears.
I mean, as I describe in my book, and you may not think it's real, but it is. Maybe I saw this on television, but maybe you saw it on French television as well. In the week that Diana died, there were grown men, middle-aged men, weeping and bringing flowers and saying to the cameras, You know, I didn't cry like this when my wife died. I didn't cry like this when my mother died. And this was all for a woman that they didn't know and had never met.
C'est quelque chose que je décris d'ailleurs dans mon roman. Je ne sais pas, je vous l'avez peut-être vu à la télé en France. Moi, je l'ai vu à la télé en Angleterre et c'est tout à fait factuel. Pendant la semaine qui a suivi la mort de Diana, on a vu des hommes à l'écran, des hommes de la quarantaine, pleurant, apportant des fleurs et disant aux journalistes « Je n'ai pas pleuré comme ça à la mort de ma femme ou à la mort de ma mère. » Donc, ils étaient là, endeuillés par cette femme qu'ils ne connaissaient pas et montraient des émotions absolument incroyables.
So, you know, I think it's true that other European countries, maybe Mediterranean countries, see us as being cold and rational and being governed by our reason rather than our emotions. But no, there are strong undercurrents of feeling and emotionality in the British people. Often what it takes for it to emerge in public is the death of a princess or the death of a queen. And, you know, the Brexit referendum itself, the people who campaigned most successfully for Britain to leave the EU were appealing to deep feelings of exceptionalism and nationalism and isolationism, which are very strong in the British people, but very buried a lot of the time.
Alors effectivement, les pays européens, je pense aux pays méditerranéens en particulier, ont peut-être la perception que les Anglais sont froids, rationnels, gouvernés par leur raison plutôt que leurs émotions. Mais il existe bien des émotions et des sentiments très très présents chez les Anglais. Simplement, pour que ces émotions fassent surface, il faut la mort d'une princesse, la mort d'une reine. Mais quand on regarde par exemple le référendum du Brexit, ceux qui ont fait les campagnes les plus réussies, qui voulaient quitter le Brexit, ont fait appel à des choses très très émotives, l'exception anglaise, le nationalisme, l'isolationnisme, mais ils ont fait toujours appel aux émotions.
Il y a on parlait de la monarchie, de la famille royale. Dans le livre, ce sont des passages assez passionnants, parce qu'en plus ils se doublent d'une rencontre amoureuse. On assiste au couronnement de la jeune Elisabeth. On sent la ferveur d'un peuple autour de cet événement. Mais il y a aussi ce genre de phrase dans Le Royaume des Unis, de la part d'un de vos personnages sur la famille royale. Un ramassis de parasites qui se gavent sur le cadavre putride d'un système social en faillite. Est-ce que c'est juste le point de vue d'un personnage, Jonathan Coe ?
C'est la question, le personnage ?
Oui, bien sûr.
Et votre opinion sur cette famille royale, justement.
Well, Christophe, you're a novelist yourself, so you will know that the beauty of writing novels is that you can divide yourself up. You can spread your own beliefs and opinions around among a wide variety of characters, and you know, there's rarely in my books, and I'm sure not in yours, a single character who speaks for the author, because the liberation of writing fiction is that you can escape all that and become truly kind of polyphonic and ambivalent.
Christophe, vous êtes romancier, et donc vous savez quelle est combien, lorsqu'on écrit, on peut se diviser et distiller ses propres opinions dans une multitude de personnages. Dans mes romans, et je suis sûre que c'est la même chose dans les vôtres, il n'y a pas un seul personnage qui parle au nom de l'auteur. C'est précisément ce que je souhaite éviter. Et je pense qu'en tant qu'écrivain, on peut devenir polyphonique et ambivalent dans tout ce qu'on dit.
But the line that you quote is quite close to my opinion.
Ceci étant, la citation que vous venez de lire est relativement proche de ce que je pense.
Au fond, voilà. Au fond, est-ce que c'est pas, vous parliez tout à l'heure d'état un peu de congélation, d'avoir eu cette reine pendant 70 ans, dont on comprend à vous écouter que ça peut être bloqué le pays, même émotionnellement. Vous m'aviez dit vous-même, c'était en 2021, il n'y a pas si longtemps, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, je me suis toujours vu comme un républicain, un adversaire de la monarchie. Même maintenant que le jour inévitable de la mort de la reine approche, hein, c'était avant sa mort, ça me paraît terrifiant. Et donc je voulais savoir si finalement, est-ce que vous avez vécu finalement la mort de cette reine comme quelque chose de paniquant, parce que c'est aussi un saut dans le vide, ou comme une libération et peut-être même une chance pour l'Angleterre de couper avec ce passé aussi somptueux a-t-il été.
I think it's made me realize how purely symbolic the role of the monarchy is in the UK, that it seems like an enormous epoch-defining change to move from 70 years of Queen Elizabeth II to the new reign of King Charles III. But, you know, has it really made much difference to the texture of everyday life in the UK? Can you really feel the difference in the air between August this year and November this year? No, I don't think you can.
En tout cas, ça m'a fait prendre conscience de l'aspect purement symbolique de la couronne. On pourrait penser qu'avec un tel changement, on changerait d'air. Finalement, elle est restée pendant 70 ans et on assiste maintenant à l'avènement de Charles III. Pour autant, est-ce que la vie de tous les jours a changé ? Est-ce qu'on ressent des différences entre août et novembre ? Non.
And I talked about the contradictions that this novel tries to negotiate, and another one of them is between public life and private life. And yes, the book is structured around these great public occasions, coronations, royal weddings, investitures. But the real subject of the book is the everyday life of the family that I'm talking about. And the recurring phrase that you find three or four times in the book, where one or other of the characters says that everything changes, but everything stays the same. This is really what I realized was true as I wrote the book. That you know, kings and queens come and go, prime ministers come and go very quickly at the moment. But daily life goes on. It's as simple as that.
Je vous disais tout à l'heure que mon livre est un livre de contradictions, et l'une de ces contradictions, c'est vraiment la dichotomie entre vie publique et vie privée. Donc oui, le livre est structuré autour d'événements publics tels le couronnement, l'investiture, le mariage, mais le véritable objet du roman, c'est cette famille que je suis à travers les ans. Et une phrase revient plusieurs fois dans le roman. C'est un personnage qui dit « Tout change et pourtant tout reste pareil ». Et je me suis rendu compte, alors que j'écrivais ce roman, que c'était absolument vrai. Les rois et les reines vont et viennent. Les premiers ministres vont et viennent plutôt rapidement en ce moment. Mais la vie de tous les jours, elle, continue.
Un petit mot juste sur Rishi Sunak, qu'on ne connaît pas bien en France. Vous pensez qu'il va rester un peu plus longtemps ?
Slightly longer, maybe.
Peut-être un tout petit peu plus longtemps ?
I mean, we don't know much about him either. You know, he's only been a member of parliament for 7 years, and I think he's our youngest prime minister since 1830 or something like this. Our youngest prime minister for about 200 years. So, he is something of an unknown quantity.
Eh bien, à vrai dire, on ne le connaît pas très bien, nous non plus. Il n'est au Parlement que depuis 7 ans. C'est le premier ministre le plus jeune depuis, je crois, 1830, près de 200 ans. Donc, à vrai dire, on ne sait pas vraiment qui il est.
But, you know, as I've been saying, the English are very prone to nostalgia. We're always looking back and always saying that times were better before, and already 3 or 4 weeks into Rishi Sunak's time as Prime Minister, people are already nostalgic for Liz Truss and saying, you know, well, maybe she was better.
Mais les Anglais étant toujours relativement nostalgiques et ayant tendance à dire que c'était mieux avant, eh bien, on se retrouve là peut-être 3-4 semaines après que Rishi Sunak devienne Premier ministre, et les gens sont déjà en train de dire « Ah, bah, quand même, peut-être que Liz Truss était mieux ».
Alors, il y a un personnage intéressant. Je voudrais juste vous lire quelques lignes. pour vous montrer aussi que, bien sûr, il s'agit d'une famille. On est, je le disais, hein, c'est un roman qui est vraiment à l'échelle humaine, à l'échelle de cette petite famille, mais qui vit hein, les événements qui secouent l'Angleterre. Et on rencontre un personnage que vous allez peut-être reconnaître. Si vous vous souvenez qu'il a été un temps journaliste, et il a été journaliste à Bruxelles. La plupart des journalistes se ressemblaient tous, à l'orée de la cinquantaine, cyniques, désabusés, profondément las d'être coincés à Bruxelles pour rendre compte des rouages de l'UE, mais toujours déterminés à faire leur boulot relativement consciencieusement. Mais Martine commença à entendre des bruits de couloir au sujet d'un membre de cette fine équipe qui semblait assez différent. Il arborait une tignasse rebelle de cheveux blonds et se baladait dans Bruxelles au volant d'une Alfa Romeo, écoutant du heavy metal à fond les ballons sur l'autoradio. Il connaissait l'Union européenne par cœur parce qu'il avait passé une bonne partie de son enfance à Bruxelles. Il était allé à Eton, il avait été président de l'Oxford Union, il avait décidé de survivre au travail fastidieux que lui imposait son poste de correspondant à Bruxelles pour le Daily Telegraph, en traitant tout ça comme une vaste blague, en manipulant les faits comme bon lui semblait, et en tournant tous ses papiers de façon à montrer que le fonctionnement du Parlement européen faisait partie d'une vaste conspiration visant à contrarier systématiquement les Britanniques. Son journal l'employait comme reporter, mais il n'avait rien d'un reporter, c'était un satiriste, un tenant de l'absurde, et il s'amusait manifestement tellement et était si bien parti pour se faire un nom que tous les autres journalistes se consumaient de jalousie et passaient tout leur temps à essayer de comprendre comment devenir comme lui. Un signe de l'estime presque mystique qui lui témoignait était le fait qu'il ne l'appelait jamais par son nom complet, seulement son prénom. Il l'appelait simplement Boris. Vous l'avez reconnu. Et si je continue, je pourrais dire, en vous citant encore, toujours pressé, toujours en pétard, toujours en retard, toujours dans l'improvisation, toujours à en faire des tonnes, toujours très demandé et toujours inaccessible. Pour lui, la vie n'est qu'une vaste blague. C'est un peu inquiétant quand même. C'est-à-dire que si on avait regardé comment il travaillait comme journaliste, on aurait compris le risque que c'était qu'il accède au pouvoir.
Yeah, I agree. I agree, and that's why I wrote this passage to remind people that this was how he started, and that Boris Johnson did not begin his career as a politician. He began as a journalist, and not a journalist who stuck to the facts, but a journalist who treated everything as a joke, and particularly treated the European Union as a joke, because that was what he was employed to report on in the 1990s.
C'est absolument ça, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi d'écrire ce passage pour rappeler aux lecteurs comment Boris Johnson a débuté. Il n'a pas commencé sa carrière en tant qu'homme politique, mais en tant que journaliste. Et ce n'était pas un journaliste qui se tenait aux faits, c'était un journaliste qui tournait absolument tout ce qui lui passait entre les mains en blague, qu'il s'agisse des faits en général ou de l'Union européenne en particulier, puisque c'était là-dessus qu'il était censé écrire dans les années 90.
And you asked me to define Englishness earlier. I think there is a phrase in this novel where I got a little bit closer to it than I have done before. And it's embodied really in the figure of Boris Johnson. I don't know how the phrase has been translated into French. I say at one point that what defines him and Englishmen like him is a peculiar mixture of facetiousness and nationalism.
Alors, tout à l'heure, vous me demandiez ce que c'était que d'être en anglais. Et j'ai une phrase dans mon roman qui peut-être se rapproche d'une définition possible. Une phrase que j'ai écrite en parlant de Boris Johnson et des gens comme lui. C'est en fait un mix entre la facétie et le nationalisme.
And the kind of cinematic expression of this, which is mentioned in the book a lot, as you said at the beginning, is the figure of James Bond, and James Bond as played in particular by Roger Moore in the 1970s. A moment that I write about in the book, which I remember very vividly from my childhood, is the scene in The Spy Who Loved Me, a film released in 1977, where Bond skis over the edge of a cliff He opens a parachute as he's falling down, and the parachute opens to reveal a Union Jack. And when I saw this in the cinema, the whole audience rose to their feet and were applauding and cheering and laughing. And, you know, again, looking back on that moment, I feel this mixture, as I say, of facetiousness and nationalism.
Et je crois qu'un très bon exemple de cela, c'est le personnage de James Bond, et particulièrement de Roger Moore, qui jouait ce rôle dans les années 70. J'ai un souvenir, qui est d'ailleurs dans le roman assez vif, de L'espion qui m'aimait, qui est sorti en 77, et au cinéma... donc j'ai été dans le cinéma et il y avait cette scène où James Bond descend une montagne en ski et soudain il ouvre son parachute et le parachute est aux couleurs du drapeau britannique. Et à ce moment-là, tous les gens dans le cinéma se lèvent, applaudissent, rient. Enfin, c'était une effusion absolument extraordinaire. Et ça me fait vraiment penser à ce mix entre la facétie et le nationalisme.
As an interesting coincidence, that scene, that very scene in The Spy Who Loved Me, was written in a house just 5 or 10 miles from here by the screenwriter Christopher Wood, who has a house near Brive. So actually, it started in Brive.
Et la coïncidence veut que cette scène en particulier a été écrite par Christopher Wood à quelques kilomètres d'ici, puisqu'il a une maison non loin d'ici. Donc voilà, tout a commencé à Brive.
Tout commence toujours à Brive. Mais reste à Brive. Juste une question pour terminer avant de se quitter sur 2-3 petites questions très rapides que je vais vous poser. Boris Johnson, vous pensez qu'il peut revenir dans la vie politique britannique? Comme vous disiez que les Britanniques disent toujours finalement c'était peut-être mieux avant. Est-ce qu'on peut revenir? Vous dites que c'est plus qu'un personnage de roman parce que c'est son propre auteur. Hein, vous m'avez dit ça l'autre jour. C'est quelqu'un qui en permanence corrige son personnage, réécrit son personnage, donc une sorte de mi-personnage, mi-écrivain. Est-ce qu'il peut revenir aujourd'hui dans la vie politique britannique?
No, I don't. I don't think he can. He can rise to political power again in Britain because, you know, he committed a sin which the British find unforgivable, which is hypocrisy. By having parties and not obeying the lockdown rules while the rest of the country was locking down during COVID. And no, he won't come back from that.
Non, je ne pense pas qu'il reviendra au pouvoir simplement parce qu'il a commis un véritable péché aux yeux des Anglais quand il a insisté pour continuer à faire des fêtes alors que le reste de la population était en confinement. Donc il ne se remettra pas de ça.
J'ai quelques petites questions très très rapides. Vous parlez des James Bond, hein, ils sont très très présents, hein, c'est vraiment l'un des fils rouges de ce très beau roman. Vous êtes plutôt Sean Connery ou Roger Moore?
Sean Connery ou Roger Moore?
George Lazenby.
Et pourquoi?
Because it's the best Bond film on Her Majesty's Secret Service. I don't know how it's translated in French. I saw it when I was a kid, and it was the first James Bond film I saw, and it had a very profound effect on me. Actually, this film, you know, this film has a very tragic ending because after he defeats Blofeld and everything, his new wife gets assassinated, and in many of my novels, there is a happy ending and then a final chapter where this is flipped and twisted, and something tragic happens. And I realize now this is all going back to that film.
Parce que je pense que c'est le meilleur film. C'est un film que j'ai vu quand j'étais enfant. C'était le premier James Bond que je voyais. Et il a vraiment eu un impact profond sur moi. Il faut savoir que ce film a une fin un petit peu tragique parce qu'après avoir vaincu le méchant, malheureusement, la toute nouvelle femme de James Bond est tuée. Et dans mes romans, j'ai toujours une fin plutôt heureuse et un dernier chapitre où cette fin heureuse est un peu modifiée pour ajouter un élément de tragique. Et je me rends compte maintenant que ça vient de ce film-là.
Vous êtes plutôt Aston Villa ou Birmingham City Football Club?
Wolverhampton Wanderers.
D'accord. Très bien. Cadbury ou Milka?
It's a really difficult question because, you know, as I'm always saying in interviews, I feel... extremely European and extremely English at the same time, and I don't like there to be any contradiction between those two things. I don't think there should be. So emotionally, Cadbury. For taste, Milka.
Alors c'est une question extraordinairement difficile parce que je me sens à la fois tout à fait européen et tout à fait britannique, et je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait de contradiction à ça. D'un point de vue émotionnel, Cadbury's. Au niveau du goût, Milka.
Merci beaucoup pour cet aveu final, Jonathan Coe.
Merci.
Donc
merci,
si vous
Christophe.
Voulez tout comprendre de l'Angleterre et lire en plus un passionnant roman, il faut vraiment lire Le Royaume des Unis. Voilà, très beau titre. Et Jonathan Coe, vous pouvez le retrouver donc sur le stand de Gallimard jusqu'à ce soir, c'est ça ?
Oui, yes. After a heavy lunch, so voilà. Forgive me if I'm a little sleepy at the signing desk.
Voilà,
this afternoon.
Vous savez que les Anglais dînent toujours très tôt, donc il faut pas le rater. Et il est là. Merci à Sa Majesté de Brive, on l'applaudit.
Thanks again to you.
Merci à tous. Thank you.